Nous refusons dire non à l'armée en Israël. C'est la deuxième partie et la dernière de ce micro ouvert qu'on va entendre, que vous allez entendre. Alors, sur l'estrade, il y a Martin Barzilay. Il y avait, hein, parce que c'est passé, Karine Thibault, Maya Lerman, Sharon Gezinski et Sacha Schiffman. Une collaboration entre l'Union des progressistes juifs de Belgique, Amnesty International Belgique francophone et le Centre culturel Jacques Franck. Dans cette deuxième partie, ben on écoute le public. Voilà, le public qui réagit. Donc je vous invite à écouter la première partie pour bien comprendre tout ça. Et comme on a le temps dans ce micro ouvert, parce qu'il finit tôt, j'avais envie de vous faire écouter avec des gens du voyage en milieu des usines. C'est un reportage vidéo de Street Press et de Mathieu Bidan, je ne sais pas comment on dit. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer ces dames parce que c'est trop bien ce qu'elles font, vraiment. Indispensable. On s'écoute ça.
Ici, l'aire d'accueil de l'Aime Ronchin, c'est l'aire la plus polluée de la métropole lilloise.
C'est comme ça toute la journée.
Ici, c'est l'aire d'accueil et juste à côté, il y a l'usine.
On a marre de la poussière. On mange que la poussière, en fait.
Les gens du voyage, c'est les voleurs, c'est les crasseux, c'est tout ça. C'est les préjugés des gens qui ne nous connaissent pas.
Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'enfer que vivent les trois femmes que vous venez d'entendre. Elles sont toutes membres de la communauté des gens du voyage. Carmen, Bernadette et Sue-Hélène habitent l'aire d'accueil d'Hélène Ronchin, juste à côté de Lille. Et leur cadre de vie, c'est ça. Deux usines, les camions et l'autoroute qui passe à côté. L'air est coincé dans une zone complètement polluée, à tel point que de nombreuses maladies touchent les enfants et les adultes qui vivent ici. Il y a des bronchiolites, de l'asthme, des cancers. La vie est devenue intenable pour les près de 300 habitants. Mais ces trois femmes, avec d'autres, ont décidé de se battre pour réclamer la construction de nouvelles aires. Après plus de 10 ans de combat, elles nous racontent la vie au milieu des usines.
Jusque l'âge de 16 ans, on va dire exactement, avec nos parents, on avait l'habitude de prendre nos caravanes, arriver le beau temps et voyager autour de la France. On ne quittait jamais la France. Et l'hiver, on venait se poser les quelques mois pour rester tranquille et on repartait au beau temps.
Je suis arrivée exactement le jour de l'ouverture du terrain, en 2006. Et avant la concasserie, on était déjà placés sur une aire sauvage, comme on appelle aujourd'hui.
J'étais en maison avant. J'ai resté pendant 15 ans en maison. Et le quartier était chaud, en fait. Il y avait beaucoup de dealers. Mon mari s'est pris deux coups de couteau. Les enfants, ils ont grandi. Ils voulaient repartir sur l'air. Et je suis arrivée en 2018.
Chaque famille a son emplacement. Chaque famille paye très cher. En hiver, on a des factures jusqu'à 400-500 euros.
Seulement, il faut savoir que beaucoup de personnes dans les aires d'accueil n'ont pas la capacité de travailler parce qu'on est discriminé par rapport à notre mode de vie et on nous interdit l'emploi. Du coup, beaucoup se retrouvent en difficulté de payer. Seulement, dans les aires d'accueil, on n'a pas le droit aux aides que tous les Français ont dans les logements. On n'a pas le droit à l'APL, les chèques énergie, on les a pas. Toutes les aides sociaux qui sont accessibles aux Français, pour savoir que nous, on est Français depuis X générations, on les a pas.
Sur ma dalle, comme tu vois, il y a un chalet, j'ai mes caravanes, c'est ma caravane. Celle de ma fille et celle de mon garçon. Et juste à côté, l'usine. Tu vois, le problème de l'usine, il y a la poussière et le bruit surtout. Le bruit, c'est invivable. Ça commence à 4 heures du matin, ça finit entre 19 et 20 heures. Ici, c'est l'aire d'accueil et juste à côté, il y a l'usine. Et comme là, vous voyez les camions, si ça passe, vaut mieux se tirer de là, hein, parce que ça ne ralentit pas du tout. Hein. Pour nous, c'était magnifique. C'était une aire d'accueil qui était propre. On avait l'hygiène, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au bout de 6 à 8 mois, je sais qu'on a eu beaucoup d'effets d'épidémie égale.
Quand la concasserie a ouvert, nos problèmes de peau se sont aggravés. Eczéma, gale, appétigo, démangeaison.
Mon petit dernier l'a eu aussi. Il l'a eu, mais moi je pensais que c'était l'hygiène quand j'ai vu le docteur. Le docteur m'a dit non, c'est une gale de ciment. C'est là qu'il a dit que c'était vraiment l'environnement du terrain, quoi.
Quelques temps après, les enfants prenaient des bronchites, des asthmes. Les enfants, ils naissaient, au bout d'une semaine après, ils avaient des broncholites. Sur 10 enfants qui sont nés, il y en a 7 qui sont asthmatiques, c'est pas normal.
Moi aussi, je suis malade. Les problèmes de poumons. Je suis suivie à l'hôpital. L'été, c'est encore pire. Quand il vient les sécheresses, on n'en peut plus. On étouffe, on a mal aux yeux aussi. C'est beaucoup de conjonctivite. Il y a beaucoup maintenant qui portent les lunettes sur ce terrain. Et dire qu'avant, chez nous, les gens du voyage, on ne voyait pas les lunettes sur les yeux. On se disait, on se moquait des gens. Maintenant, tout le monde y en porte, presque ici.
L'été, bah, c'est encore plus dur parce que c'est beaucoup sec. Et quand c'est sec, la poussière ressemble. Mais ce n'est pas de la poussière normale, c'est du ciment. L'été, normalement, c'est le moment où on vit le mieux. Ben nous, sur les aires d'accueil, c'est le moment où c'est le pire pour notre vie.
On est obligé de se cacher pour faire un barbecue, alors il y a tellement de poussière.
Moi, je fais très attention. Justement, moi, mes enfants, mes petits-enfants, je ne les sors jamais. Que ce soit en été, en hiver, je ne les sors jamais. Là, j'ai mon petit gamin qui a 3 mois, je ne le sors jamais. Bah, ce week-end-là, il a fait chaud, je ne l'ai pas sorti. Parce que je sais qu'est-ce qu'il peut risquer.
Il y en a beaucoup qui sont décédés ici. Il y en a 6 sur ce terrain. Ils ont tous eu la maladie, cancer, en fait. C'est ça qui les a tués. Dans tous les terrains qu'il y a sur l'île Métropole, c'est le plus qu'il y a le cancer, en fait. C'est ce terrain-là. On pense souvent à elle. À notre belle-sœur. Elle avait 42 ans. Elle était jeune. Elle est morte d'un cancer. C'est pour ça aussi qu'on se bat.
Pendant des années, on essaie de se faire entendre par des réunions avec les politiques. On parlait de nos problèmes, ça n'aboutissait à rien. On nous écoutait, on nous faisait de grandes promesses. Ça nous donnait de l'espoir pour du changement, mais rien ne bougeait.
Autour d'un café, on a décidé de créer un collectif. Moi, je peux vous dire, collectif, avant, je ne savais pas ce que c'était.
En décembre 2014, ça fait 1 an et demi que notre collectif existe. Rien ne bouge malgré nos pétitions. Ras-le-bol.
Au bout de quelques années, les femmes ont été beaucoup découragées parce qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues. J'ai rejoint le collectif par rapport à ma sœur, de Maître Carmen. Elle restait la seule à se battre et quand j'allais la voir, elle me disait « Allez, viens, viens ». Au début, j'ai été pour la soutenir. La première réunion où j'ai été, et j'ai vu que vraiment les gens en question, la MEL, les gestionnaires qui gèrent les aires d'accueil, les baladaient et les mettaient souvent en faute. Et quand moi, j'ai entendu ces propos, je ne devais pas prendre la parole. Je l'ai pris ce jour-là et puis ça m'a donné la niaque. On est un collectif depuis 13 ans, une asso depuis 2 ans. On est fiers d'être les premières de la communauté des gens du voyage à faire montrer la voie pour que les gens y comprennent, ils ont des droits et surtout qu'ils les mettront en pratique. Alors on a eu le 12 avril 2024, il n'y a pas si longtemps, notre marche de dignité pour les gens du voyage. Je suis très très fière de la mettre en avant parce que ça a été une manifestation qu'on a préparée depuis des mois.
Je pensais qu'il y avait moins de monde, mais non. Franchement, on a atteint ce qu'on voulait. Les 200 personnes, on les a eues. Il y avait des pancartes, on avait une banderole aussi. Il y avait des journalistes, des femmes de tous les terrains, en fait.
On s'est bien entouré parce qu'on a compris que l'État n'écoutera jamais les gens du voyage à eux-mêmes. Tout le soutien qui est avec nous, ça nous a permis d'être écoutés et d'être reçus par M. Delbar et le secrétaire de Damien Castelin, qui ont pris en compte nos demandes, ont porté une charte des droits fondamentaux qui met en place les points qu'on soit défendu dans les aires d'accueil et qu'on demandait une réunion de conciliation. Ça, normalement, on l'aura gagné. Elle sera mise en rigueur au mois de juin, en même temps que les droits fondamentaux qu'on a réclamés, qui seront rajoutés au règlement intérieur des aires d'accueil. S'ils ne tiennent pas parole, on ira en justice. C'est l'heure, là. Il faut que les gens comprennent qu'on est des gens, comme tout le monde. On est des êtres humains, on a des droits, on a un mode de vie différent qu'on veut garder absolument. C'est notre identité.
Le voyage, c'est plus, ils voient la caravane, ils ne voient pas les gens qui y vivent. Parce que pour eux, caravane ne signifie pas qu'il y a une personne qui vive à l'intérieur. Pour eux, c'est caravane, gens du voyage. C'est les voleurs, c'est les crasseux, c'est tout ça. C'est les préjugés
des gens qui ne nous connaissent pas. C'est dommage que les gens ne regardent pas plus loin que le bout de l'unier.
Ça va changer. Et on se bat pour ça aussi. C'est notre combat maintenant. Pour tous les gens du voyage.
C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci à Carmen, Bernadette et Swellen de nous avoir accueillis et d'avoir accepté de témoigner. Nous, on va continuer à suivre ce dossier sur Street Press. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper.
Micro ouvert.
Alors, on a encore beaucoup de questions. On a préparé plein de petites questions avec Sharon. Mais je pense qu'on va ouvrir un peu le débat avec vous. Je me permets juste de mettre un tout petit cadre pour que ça se déroule bien. Donc, essayez si possible d'avoir des questions assez courtes qui sont adressées à l'un ou l'une des intervenants. On va prendre quelques questions à la fois. L'idée, vraiment, c'est plutôt de partager la parole plutôt que de la monopoliser. Donc, voilà, Chiara pourra faire tourner le micro. En ligne aussi, vous pouvez réagir via le chat. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Donc juste, voilà, n'hésitez pas à dire ce qui vous passe par la tête. Si vous avez du mal à formuler une question, vous pouvez aussi simplement réagir à quelque chose qui vous a interpellé.
Bonsoir, on m'entend, oui. Je suis membre de l'UPJB, je m'appelle Elias. Donc ce que je vais dire est très proche de mes camarades, Sharon et Sacha. Merci beaucoup pour cette soirée. Je vous partage d'abord une impression. Je suis à la fois très reconnaissant et en même temps il y a un silence que je trouve assourdissant par rapport à qui est représenté ce soir autour de la table, et c'est l'absence en fait de personnes palestiniennes. C'est la première chose que je voulais dire, et éventuellement que vous puissiez réagir là-dessus. Alors c'est pas une accusation, c'est vraiment une question. Et je prolonge ma question en demandant donc le courage évidemment des personnes qui refusent, si jeunes, de servir. Je voulais savoir si derrière ce refus, au-delà de certaines déterminations liées à une culture familiale que vous avez déjà évoquée, il y a aussi des aspirations politiques en termes de projets de société, et si dans les rencontres que Martin vous avez pu faire, il y a des choses en termes de cohabitation, par exemple voilà, du rêve d'un État binational comme il a pu déjà être formulé, qui sont exprimées par ces personnes. Et je m'arrête ici, mais simplement dans le petit film qu'on a vu, il y a une jeune femme de 36 ans, j'ai vu qu'elle s'appelait Noam Schuster Eliassi, qui parle d'une amie palestinienne, c'est la seule. Je ne sais pas si parmi les personnes que vous avez rencontrées, il y a des contacts avec, on va dire, l'autre côté du mur. Merci.
Alors, je réponds tout de suite ou j'attends?
On a dit qu'on prenait deux, trois questions. Non, on va pas tous.
Oui, bonsoir à tout le monde et merci. Ma question, c'est... quel est le processus mental pour rompre en tant que réfugié par rapport à cette propagande collective? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on arrive à se, je ne sais pas si on pourrait dire décoloniser les esprits ou je ne sais pas comment, dans les profils de ces personnes-là, qu'est-ce qui a fait que? On voit qu'il y a la culture familiale, mais vous avez dit aussi qu'il y a une propagande qui commence à la maternelle quelque part, et cette pression sociale, ce conformisme social, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ont réussi quelque part à rompre avec ça? C'est quoi le processus mental?
Peut-être encore une troisième question. Je vois que là-bas, tout de l'autre côté. Ah voilà. Okay. Merci.
J'aimerais bien avoir l'avis d'une personne qui connaît bien Israël, qui a vécu en Israël. Comment ça se fait finalement que cette société ait l'air vraiment peu sensible au sort des Palestiniens, et comment ça se fait qu'elle soit si militaire et qu'il n'y ait pas cette empathie qui reste? Comment vous expliquez ça par rapport à l'histoire, par rapport à tout?
Je peux répondre?
Vas-y, ouais, je t'en prie.
Okay. Et personnellement, c'est difficile pour moi de répondre parce que moi, je ne comprends pas. Mais, mais si je regarde ça à l'extérieur, et ça fait plus, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se fait depuis des années, et en plus, plus fort depuis, je pense, les 25 dernières années, que ça devient pire, et le racisme, la déhumanisation des Palestiniens, et en fait aussi à cause de la construction de murs, et les Gaza et tout. Les gens, ils ne racontent pas les Palestiniens. Donc, aussi, il y a les chaînes et pour exemple des télévisions très très publicitaires, très vraiment très agressives de manière des ratings, des choses comme ça, ils nourrir par les peurs, par les terreurs, par les traumas. C'est maintenant le 7 octobre, c'était incroyable. Ils ont parlé de ça en loupe, encore et encore et encore. Et les gens là-bas, c'est ça qu'ils font. C'est quelque chose qui ne laisse pas les gens guérir. Jamais. Jamais. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Je pense, voilà, si je parlais de l'école, c'est bien, tout le temps on a dit il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier le passé, mais c'est juste devenu une manière de juste rester dans les victimisations, rester dans les modes de trauma. Et c'est, pour moi, c'est hallucinant que c'est, en fait, c'est ça qui permet les choses, les gens qui peuvent faire des choses horribles comme ça et ne pas voir la réalité, vraiment. Mais c'est pas, c'est ça, je dis ça, mais c'est pas une excuse, je veux pas excuser les... Non. Parce que moi je comprends pas, mais oui, c'est un peu comme, oui, les banalités de mal ou les... C'est aussi dans l'armée, je pense. Les gens, quand il y a des tâches qui sont séparées, il y a les, pour exemple, c'était, comment on dit, pilote qui appuie un bouton, il y a les choses qui se font avec les IA et qui laissent les gens ne pas confronter.
Karine, tu as envie de réagir à ce que dit
Mélanie? Oui, moi, je voulais juste... en fait, moi, j'étais, il y a super longtemps, c'était juste avant la seconde intifada. Donc, la seconde intifada avait commencé, c'était la fin des accords d'Oslo. Par rapport à ce que tu disais, Martine, est-ce que tu dis... Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'effectivement, tu as Tel Aviv, et à une heure de route, tu as Gaza, même chose Ramallah, Bethléem, par rapport à Jérusalem. Donc, tu as vraiment une société qui est totalement divisée. Donc, Amnesty International, on a sorti... trois rapports, enfin un rapport, pas trois rapports, mais deux rapports importants, un sur l'apartheid qui date maintenant un peu, et puis un autre il y a en 2024 sur le génocide. Et en fait, quand on dit que c'est un régime d'apartheid, moi c'est ça qui m'a le plus marqué en fait. Ça veut dire que tu ne croises pas, tout est fait, et moi j'ai même pas vu le mur à l'époque, mais je veux dire tout est fait pour qu'il n'y ait que tout le monde soit séparé le plus possible. Et donc le seul moment où il y a une rencontre avec la Palestine occupée, c'est effectivement à travers le service militaire. Et je trouve dans ton livre, c'est bien expliqué aussi que c'est certaines personnes aussi qu'on envoie dans les territoires palestiniens occupés. C'est pas tout le monde qu'on envoie. Et évidemment, ceux qui font partie de l'élite se retrouvent dans des brigades d'élite dans lesquelles on est beaucoup plus lointain de ce qui se passe. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est le fait aussi de dire que c'est une société qui est ancrée dans l'apartheid, dans une occupation illégale, qui est ancrée dans un génocide. Ben, évidemment que ça crée aussi une forme totalement de détachement. Et je pense qu'on est toutes et tous heureux et que c'est hyper important de soutenir les gens qui en Israël maintenant s'expriment sur le refus de l'augmentation de l'offensive militaire, enfin ce qui est en train de se passer maintenant à Gaza, hier, aujourd'hui et tout ça, mais que c'est pas encore une proximité avec ce qui se passe pour les Palestiniens, c'est avant tout une discussion sur la libération des otages et sur un cessez-le-feu. Et donc on est dans une société dans laquelle le jour où on discutera de reconstruire quelque chose, il y aura un immense travail à faire, parce que moi ça m'a marqué, c'était il y a 25 ans, mais là on est trois fois plus loin, et dans la gravité de là où on a basculé. Donc voilà, je pense que c'est ça que tu racontes, et donc évidemment qu'on grandit dans une histoire nationale qui est particulière, qui est biberonnée très tôt, et le fait de faire le service militaire à 18 ans, c'est un âge particulier dans votre vie en fait, c'est un acte de construction hyper puissant dans votre vie, de qui vous allez être, ce que vous allez être, et aussi de socialisation gigantesque. 3 ans, c'est pas rien, hein, pour des hommes, et 2 ans pour des filles. C'est une socialisation gigantesque, en fait.
Bah, Moi, je voulais juste dire que dans ton livre, il y a un profil qui est hyper intéressant, qui est celui d'Itamar Greenberg, qui est justement, qui lui aurait dû suivre une ligne qui vient d'une famille orthodoxe, et il raconte, et peut-être que toi, tu vas mieux le raconter, comment il a fait pour rompre le processus mental. Quelqu'un a posé la question dans la salle, donc je te laisse répondre.
Alors, pour le processus mental, c'est... En plus, je disais tout à l'heure que ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de la société israélienne. Mais ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est ce moment de déclic. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que une personne passe d'un côté à l'autre, qu'elle comprend quelque chose. Alors, il y en a un qui me parle aussi de ce film qui s'appelle Monsieur Klein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un vieux film avec Alain Delon. Pour une fois, Alain Delon n'est pas si mal. Ça se passe pendant l'occupation et c'est un monsieur qui profite en fait des déportations pour faire de l'argent. Il revend des meubles qu'il va chercher dans des appartements vides et jusqu'à ce que, puisqu'il s'appelle Monsieur Klein. Et ce refusnik aussi réserviste. Raconte que en fait il a pris conscience en voyant ce film et une autre pièce de théâtre que peut-être lui aussi il était en train de nager dans le sens du courant, c'est son expression. Itamar Greenberg qu'on a vu, c'est le premier, non c'est pas le premier, c'est le deuxième, merci, qu'on a vu dans le petit film. Lui, c'est vrai que vraiment il aurait dû l'amener à être un juif orthodoxe, ultra-orthodoxe, pas très rigolo. Et finalement, je ne sais pas par quel mécanisme, on a l'impression dans ce cas que c'est parce qu'il est plus intelligent que la moyenne. Donc quelque part aussi, ça le rend, dès le départ, un petit peu outsider, un petit peu pas pareil que les autres. Il va... casser le... Parce que quand on vit dans une famille ultra-orthodoxe, dans une famille très religieuse, on ne peut pas avoir accès à tout un tas d'informations sur Internet. Si on va sur Wikipédia et qu'on tape évolution, Darwin n'apparaît pas. Donc lui, pour arriver en fait à accéder à un certain nombre d'informations, il a réussi, à l'âge de 14 ans, à virer le pare-feu religieux sur les ordinateurs de son école religieuse et chez lui à la maison. Et donc à partir de là, il va commencer à lire, et il va comprendre qu'il y a une autre narration qui n'est pas celle d'Israël. Et voilà. Et donc en fait, il y a plein d'éléments, et effectivement, ça peut être aussi bien une culture familiale, et là évidemment c'est plus facile, mais il peut y avoir des petits déclics qu'on ne sait pas très bien. Il y a aussi les réservistes qui ont fait leur service militaire, qui se sont conduits comme des barbares par rapport à ce qu'ils ont fait aux Palestiniens, et qui, après un certain nombre de barbaries, j'ai envie de dire, de moments dégueulasses, finissent par dire non. Et souvent, c'est déclenché, finalement, par des choses qui sont, par rapport à leurs convictions, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'armée et pas par rapport aux Palestiniens en fait. Mais après ils peuvent devenir aussi des militants très, très, très antisionistes. Alors pour répondre à la première question, oui, il y a dans les témoignages que j'ai pu recueillir des façons de voir l'avenir qui sont très très structurées. Certains donc sont totalement antisionistes et se donnent le droit de rester en Israël que s'ils se battent, s'ils luttent aux côtés des Palestiniens. Il y en a plusieurs, dont Itamar, qui passe beaucoup de temps en Cisjordanie pour faire ce qu'il appelle de la présence protectrice et qui donc se retrouve aux côtés des Palestiniens à documenter la terreur des colons, la terreur que font subir les colons aux Palestiniens. Parfois, ils s'interposent, ils essayent de retenir les colons. Je crois qu'il y a une quinzaine de jours, il y a donc des activistes israéliens qui se sont fait casser leur voiture en Cisjordanie par des colons. Donc ils demandaient à ce qu'on les aide pour acheter notre voiture. Qui se sont fait évidemment aussi casser la gueule. Bon voilà, donc il y a une proximité du coup, enfin c'est un petit peu aussi pour répondre à ta deuxième question, il y a une proximité avec les Palestiniens parce que en fait dans certains villages, dans certaines communautés, on appelle ces activistes quand il y a des problèmes avec des colons, on sait que tel jour ils sont dans le coin, donc on les appelle pour qu'ils viennent, pour que ça fasse une présence de plus. Voilà, donc il y a des liens en fait entre les Palestiniens et des Israéliens, qui ont été des liens qui, après le 7 octobre, ça a été difficile en fait de tenir ces liens. Je sais qu'il y a pas mal d'organisations comme par exemple Combatant for Peace, où c'est des organisations où il y a des Palestiniens et des Israéliens, où après le 7 octobre, en fait, ça a été très très difficile de maintenir. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis des deux côtés. Voilà, bon, je pourrais détailler, mais je sais pas, je crois que j'ai répondu à la question.
Oui, je pense aussi. Je sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Ah, l'absence. Oui.
Mais ça, c'est pas pour nous, hein. Ouais. C'est une question qui est à nous, non? Enfin, je veux dire, c'est pas une question à Martin. Non, me semble-t-il, c'est une question. Pourquoi il n'y a pas de Palestiniens, Palestiniennes sur la scène? C'est ça la question. Non, oui, c'est la question. Oui. Pas. Ok. Mais donc juste. Moi, je pense que c'est pas à voir ici. Je vais dire Amnesty. Ça va? On peut ne pas être d'accord et tout. Donc Amnesty International, il y a plein d'événements où effectivement on invite des Palestiniens, des Palestiniennes. On a beaucoup de gens, Palestiniens, Palestiniennes, exilés pour certains, d'autres pas, qui travaillent pour Amnesty International et qui font les rapports, qui ont entre autres fait le rapport sur le génocide et ainsi de suite, et qui travaillent sur les rapports. Le dernier rapport qu'on a sorti, c'est mardi, sur 15 entreprises complices de génocide, d'apartheid, d'occupation illégale. En tout cas, quand on a discuté de cette soirée, pour nous, ça avait du sens et j'ai pas eu l'impression de silencier, mais peut-être on peut en discuter après à un autre moment, mais de silencier les voix palestiniennes et de se dire, tiens, on prend un temps pour comprendre aussi la dissidence, si on veut, en tout cas les gens qui, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons peut-être multiples et variées, font partie de celles et ceux qui refusent ce qui se passe pour l'instant à Gaza et la construction, enfin l'occupation, le génocide et l'apartheid. Et donc ça valait la peine de prendre du temps sur ce focus-là, en tout cas, en se disant que ça peut aussi, à un moment donné, briser... même s'il faut, enfin, on y viendra plus à un moment, mais il faut beaucoup plus, hein. Il faut des sanctions, il faut des choses beaucoup plus fortes. Notre gouvernement est beaucoup trop silencieux sur le sujet. Donc voilà, je pense que c'était nous, on s'est pas dit qu'il fallait absolument, là maintenant, une voix palestinienne, mais ça compte évidemment dans plein de choses qu'on organise, qu'il y ait une voix palestinienne. Et à notre université été, on avait invité une organisation palestinienne, mais malheureusement, elle est sous sanctions américaines, et c'est quelqu'un d'autre qui a dû la remplacer. Enfin voilà, c'est aussi... on en parlera un autre moment, mais il y a des organisations palestiniennes comme Al-Haq qui sont en Belgique, qui vivent des situations hyper graves parce qu'elles sont sous sanctions de Trump, et donc ça veut dire plein de choses aussi pour ces organisations.
Oui, je ne sais pas si Martin a envie de dire quelque chose. Moi, je rajouterais qu'effectivement, quand le livre est sorti, moi j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant, mais j'ai senti que en fait... C'était compliqué en fait d'organiser un événement où on mettait les voix israéliennes au centre, même si ces voix israéliennes, c'est pas n'importe quelle voix. Et donc, déjà, je remercie Sacha qui a trouvé le sujet intéressant. Mais oui, c'est un temps qu'on prend pour parler de la difficulté, de ce que ça peut avoir comme impact sociétal et de
Moi, je voudrais juste dire que je pense que c'est intéressant de connaître un petit peu ce côté-là. Pour comprendre justement ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce possible qu'une société soit capable d'en arriver là, soit capable de demander là, en ce moment même, à 1 million de personnes de se déplacer. Si j'ai bien compris, c'est ça qui est en train de se passer. Donc d'avoir tué 80 000 personnes enfin, ou 60 000, enfin, je sais plus les chiffres, 65 000, je crois. C'est, comment on en arrive là? Donc, en fait, c'est ça, en fait, la question, finalement. Donc,
se fait qu'il n'y en ait pas plus, en fait? On pourrait se poser cette question-là. Comment ça se fait que tous les Israéliens ne refusent pas de faire l'armée rapport à ce qui se passe là-bas?
Alors pour moi, j'ai fait un travail finalement assez facile qui consiste à aller voir des gens avec qui je me sens bien parce qu'ils refusent de faire l'armée, parce qu'on partage un certain nombre d'idées, et aller leur demander pourquoi ils ont fait ça et quel a été le mécanisme. Et qu'est-ce que ça implique dans leur quotidien? Plus de la moitié, plus que ça. La majorité d'entre eux disent, comme dit Sophie, la dernière, nous on reste parce que éthiquement c'est ce qu'il faut faire. Si on s'en va, y a plus personne pour soutenir les Palestiniens vraiment. Donc voilà, donc il y a un truc où c'est... Voilà, c'est une présence aussi qui est importante. Donc voilà, mais moi juste aussi ils disent plein de choses de la société israélienne à travers leurs témoignages qui n'est pas forcément directement lié avec leur refus et qui permet de comprendre comment cette société est folle en fait.
Oui, moi au début moi j'ai eu, c'était difficile pour moi de venir ici et de parler de moi-même comme je n'ai pas fait l'armée il y a 30 quelques années. Parce que la situation actuelle, parce que le génocide, je ne veux pas parler de la théorie ou des choses comme ça, parce que c'est très concret. Mais je pense aussi que... il faut soutenir cette refusnique là-bas. C'est une autre manière, à part des sanctions, que ça peut... Il peut le soutenir, il faut... Oui, il y a toute cette organisation de Messarvot, qu'on peut vraiment leur soutenir. Et aussi, en Israël, appel à de refuser, c'est illégal. De dire, d'appeler les gens de refuser, c'est hors de la loi. Nous, on peut soutenir, nous, on peut. Voilà, donc c'est important, je pense.
Voilà, je suis assez d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise aussi cette soirée et qu'on fait la promotion du livre de Martin, justement, pour faire entendre ses voix aussi jusqu'ici en Belgique. On peut encore prendre quelques questions. Vas-y, Kiara, je te vois passer le micro.
On n'entend pas.
Oui, bonjour. Oui, maintenant ça fonctionne. Merci. Sharon a fait allusion à une question que j'avais. Donc l'appel à refuser d'être appelé ou d'être réserviste. Et illégal, mais est-ce qu'il y a quand même parmi ces associations qui soutiennent les refusniques ou alors d'autres acteurs, des acteurs qui appellent et qui font des campagnes de ne pas rejoindre le militaire? Merci.
Merci. On va peut-être prendre une question en ligne.
Alors, en ligne. Une question, c'est que font les intellectuels, enseignants, chercheurs, scientifiques israéliens pour lutter contre l'endoctrinement des jeunes? Et puis, une autre question, toujours en ligne, qui est, j'aurais une question pour Madame Karine Thibault. Quelles sont les mesures concrètes qu'Amnesty met en place pour protéger ou aider ces personnes qui refusent de faire le service militaire, que ce soit en Israël ou autre part?
Je prends la question.
Oui, tu peux prendre la question.
La dernière. Donc, en gros, ce qu'on fait, d'abord, on fait d'abord un rapport annuel qui regarde la situation des droits humains dans l'ensemble des pays du monde. Et donc, évidemment, sur Israël, on va aussi regarder la question de l'objection de conscience. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est... de fait, on a publié des articles. Amnesty France a soutenu la publication du livre. Alors, ce qu'on fait... Ça veut dire que c'est un processus un peu long, mais Amnesty soutient ce qu'on appelle les prisonnières et prisonniers d'opinion. Et donc, il faut que les gens aient envie de ça, aient envie d'avoir une pression internationale qui vienne de la part d'Amnesty International. Donc, ça dépend foncièrement des personnes et de leurs proches de prendre cette décision. Et donc, quand des gens nous contactent et qui sont en prison pour objection de conscience, alors c'est pour ça que c'est aussi... Quand la prison est courte, c'est un peu différent. Je prenais l'exemple de la Thaïlande parce que lui, il va passer 3 ans en taule, quoi. Il est déjà, enfin, on a lancé. Donc, dans ce cas-là, on va lancer des pétitions et ce qu'on appelle des actions urgentes. Donc, ça veut dire que tous les activistes d'Amnesty, on est 10 millions dans le monde, ça, c'est les membres, mais beaucoup plus nombreux, vont écrire aux autorités du pays pour mettre la pression sur un cas, une situation en particulier. Et en général, quand on fait ça, ça a 2 effets. Alors, évidemment, c'est variable. Hein. Quand on écrit à Poutine, il ne se passe pas toujours beaucoup de choses, je dois dire. Mais donc, voilà, Trump ne nous écoute pas beaucoup non plus. Mais ça, c'est un peu notre habitude. Mais en gros, ce qui va se passer souvent, c'est 2 situations. Donc, soit la personne va avoir une amélioration. En général, ses camarades. Donc, ce n'est pas juste la personne, mais ses camarades vont avoir une amélioration de ses conditions de détention. Par exemple, dans certains pays, ça va permettre d'avoir accès à un coup de fil à la famille quand on vous met en isolement ou quand on vous fait une disparition forcée. Soit ça va permettre parfois de voir un médecin ou des choses comme ça. Donc voilà, ça dépend évidemment de votre situation. Et deuxième chose, parfois ça met vraiment la pression pour libérer. Donc ça met une telle pression, ça devient une tâche un peu pour certains gouvernements. Donc à un moment donné, il y a des libérations. Donc voilà, ça c'est la partie sur en tout cas les objecteurs de conscience qu'on soutient, qui sont des prisonniers ou des prisonnières d'opinion. Et en général, après, on va s'exprimer sur l'importance de l'objection de conscience, d'avoir un service civil, de pas aller en prison parce qu'on est objecteur ou objectrice de conscience, et de pouvoir accepter tout. Ça veut dire de ne pas devoir jouer que l'objection de conscience soit prise largement sur la liberté de conscience, d'opinion et de religion. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire en général. C'est de créer un rapport de force international. Donc voilà, ça marche parfois. On obtient des libérations, ça dépend des sujets, évidemment, et des dossiers. Et parfois on n'a pas, mais au moins on arrive parfois à obtenir que les... Mais voilà, c'est tellement varié selon les pays. Voilà, là on a une personne qu'on suit qui est disparue en Iran. Bon, c'est pas sûr qu'on obtiendra qu'un jour on arrive à juste savoir, avoir une preuve de vie. Mais ça c'est l'enjeu maintenant d'obtenir une preuve de vie, par exemple.
Merci. Je sais pas qui veut réagir aux autres questions, Martin.
Alors, que font les intellectuels, les profs de fac, etc. Moi j'ai eu une expérience avec des profs de fac. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société israélienne, elle est complètement hétérogène. Il y a à la fois des juifs européens qui ont une certaine culture, des juifs originaires des pays arabes qui ont une culture complètement différente. Il y a des juifs qui viennent de Russie, il y a des gens qui viennent d'Éthiopie. C'est très, très hétérogène. Donc, qu'est-ce qui les lie ? C'est l'ennemi. C'est le coup classique hein, qu'on voit dans 1984 de George Orwell, mais qu'on peut voir aussi dans d'autres pays. Qu'est-ce qui lie tous ces membres de cette société où ils sont tellement différents, où ils voient aussi bien, ils voient la religion de façon très différente. Il va y avoir aussi une communauté laïque très importante avec une communauté LGBT, puis en même temps des ultra-orthodoxes. Alors, je me souviens qu'une fois quand j'y avais été, je pense que c'était en 2009. Où à peine j'étais revenu, j'avais appris que il y avait un ultra-orthodoxe qui avait tiré avec un fusil mitrailleur à la sortie d'une boîte qui était réputée être fréquentée par la communauté LGBT. Enfin, je veux dire qu'il y a des choses qui se passeraient, qui seraient complètement folles s'il n'y avait pas cet ennemi commun. Donc, en fait... Ce qui tient la société, c'est vraiment ce que la construction historique, c'est l'ennemi palestinien. Eux, ils disent les Arabes. Donc, ce fait-là fait que même les intellectuels, j'ai envie de dire, sont bêtes, en fait. Enfin, beaucoup d'entre eux, pas tous, évidemment. Il y a Shlomo Sand, il y a quand même un certain nombre d'intellectuels, mais qui sont une minorité, finalement, par rapport aux profs de fac, hein, qui ont tous fait leur armée, aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis.
Il y a plus que ça. Enfin, Shlomo Sand, mais il y a plus que ça. Il y a Guidon Levy, il y a beaucoup de gens qui critiquent la situation, mais c'est difficile pour eux. Mais il y a quand même des gens qui...
Oui, on parle souvent des journalistes, de Haaretz, tu as parlé de 972, il y a toutes les ONG, Breaking the Silence et B'Tselem, et j'imagine que ces intellectuels sont aussi des activistes.
Oui, il y a beaucoup d'activisme. Et aussi, comme on a dit au début, c'est la base, les conséquences, c'est beaucoup plus difficile, c'est pas... Je ne suis pas d'accord qu'ils sont bêtes. Mais, dire ça, c'est facile. Si c'était comme ça, c'était facile, mais je pense que c'est plus triste que ça.
J'avoue que je ne sais pas très bien comment répondre en Belgique à cette question, parce que souvent, quand... J'essaie de faire des comparaisons avec la France, c'est-à-dire que ce que tu as dit tout à l'heure sur les médias, où en fait ça appartient depuis pas mal d'années à des gens d'extrême droite, ça influence beaucoup les opinions politiques, et en fait c'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez totalement la légitimité pour ne pas l'être, de ce qui se passe en France. C'est un peu ce qui se passe en France depuis quelques années avec un monsieur qui s'appelle Bolloré, qui a racheté pas mal de médias, dont une chaîne d'information en continu qui s'appelle CNews, qui met de l'huile sur le feu, qui attise en fait toutes les divisions à l'intérieur de la société pour attiser le racisme. Et je pense que ça joue un rôle très important en Israël.
Oui, ça c'est que la majorité de la société, ils sont devenus bêtes, ça je suis d'accord. Mais il y a encore des gens qui résistent. Mais ils sont devenus bêtes aussi, je ne dis pas, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, mais oui, ça fait des années de travail pour arriver que la société va devenir comme ça.
Et puis on disait aussi, il y en a beaucoup qui se sont exilés, qui sont partis. Qui sont ailleurs qu'en Israël aussi, et qui prennent la parole depuis l'étranger. Il restait encore une dernière question qui venait de tout en haut. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Si Martin, tu
as des éléments. Il semblait qu'on y avait un peu répondu. Je pense que aussi... des organisations comme Mesarvot, enfin toutes celles qu'on a nommées tout à l'heure... N'appelle pas vraiment à refuser le service militaire parce que c'est interdit et qu'ils veulent continuer à pouvoir agir, mais c'est en sous-titre dans leur... ça s'appelle quand même Nous, elles, refusons. Hein, donc, ça, c'est les plus radicaux. Ce que j'ai envie d'ajouter pour essayer de comprendre un petit peu tout ce dont on a parlé, qui est un élément qui me paraît important, c'est que les refusniks de 18 ans sont vus par l'opinion publique en général, mais depuis très longtemps, parce que c'est comme ça depuis les années 80, comme des espèces de hippies hirsutes qui vont bientôt rentrer dans le rang. D'ailleurs, c'était quelqu'un de Mesarvot, justement, qui me disait, on a posté un truc sur Instagram, et les commentaires, c'est du style « allez-vous laver ?» comme ils sont vus par l'opinion publique. Et puis, par contre, quand les réservistes, par exemple les pilotes, refusent, là, c'est vu complètement différemment par l'opinion publique, parce que c'est des gens qui ont déjà donné pour l'armée, pour la société. Donc, s'ils refusent, peut-être ils ont une bonne raison. Salut Philippe.
Bonsoir Martin. Une question toute simple qui, pour enchaîner par rapport à l'absence de voix palestinienne, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, une question qui n'a pas été posée. Moi je voulais savoir quelles sont les obligations militaires qui s'appliquent aux Israéliens arabes, aux Israéliens
aux Palestiniens
de nationalité israélienne.
Aux Palestiniens de 48, on dit en...
Palestiniens
citoyens d'Israël. Alors, ils peuvent faire leur service militaire s'ils veulent. La dernière fois que j'ai regardé, il y en a 438 qui l'ont fait en 2023. Mais alors, c'est vraiment, là, c'est un petit souci quand même pour, je veux dire, dans leur communauté, quoi. Ça va être compliqué avec leur propre communauté. Donc, il y en a très très peu qui le font pour des raisons évidentes, je pense. Mais ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés de le faire. Donc voilà, c'est comme les juifs religieux, comme les ultra-orthodoxes.
Voilà, mais je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Alors moi, j'ai envie de vous remercier tous les trois.
Pardon, une dernière question.
Ah.
Bonjour, excusez-moi, c'est surtout une réaction par rapport à cette histoire des gens qui sont bêtes. Ça m'a touchée parce que d'abord, moi, j'ai envie de vous dire merci pour cette soirée. Moi, j'ai lu vos livres avec vraiment intérêt. Je suis ravie de les avoir lus. Et moi, ce que j'en tire, c'est pas du tout que les gens sont bêtes. C'est plutôt un encouragement de voir que dans les pires conditions, y a des gens qui résistent, qui changent d'avis, qui vont pas avec le courant, quoi qu'il leur en coûte. Et moi, je trouve que c'est un grand encouragement pour tout le monde. Et moi, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Et moi, je pense que tous ceux d'entre nous, tant en Israël qu'ici, parce qu'ici aussi, pour le moment, on accepte tout. Alors, OK, nous, on n'est pas... on ne peut pas nous dire qu'on est en train de faire un génocide, mais enfin, excusez-moi, il y a combien de morts au Congo ? Le gouvernement belge, il a les mains pleines de sang. Le gouvernement belge, il a bombardé la Syrie, il a bombardé l'Irak. Là, on va mettre des milliers de gens dans la misère en janvier. Donc, moi, ça me gêne quand on parle comme ça, les gens sont bêtes, ça me gêne. Moi, ce que je vois surtout de votre travail, et je vous remercie de votre travail, c'est qu'il y a des gens qui ne marchent pas, et moi, j'ai envie d'être de ces gens-là. Et moi, je pense que si aujourd'hui, en Israël comme ailleurs, il y a plein de gens qui ne voient pas et qui ne refusent pas, c'est aussi un manque de perspective politique générale aujourd'hui. C'est le manque d'espoir qu'on peut changer la société, qu'on peut changer le monde. Moi, je suis convaincue qu'on peut changer le monde et qu'il faudra pour ça qu'on se batte pour nos vrais intérêts. Notre vrai intérêt, c'est notre intérêt de travailleur et pas notre intérêt national ou religieux. Voilà, je voulais dire ça.
Je ne vois rien à ajouter. Merci. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens effectivement là-bas dans cette situation qui sont des réfractaires même dans les pires moments. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce travail.
Bon, je laisse à Karine l'occasion de dire un mot avant de clôturer et après,
oui, un mot, je
te jure. Continuer à discuter de manière informelle dans le bar du Jacques Franck.
Voilà, juste une lecture à vous conseiller. Donc, vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti des Nations Unies qui corrobore le rapport que Amnesty avait fait, que d'autres organisations ont suivi, que des organisations israéliennes ont fait sur le fait qu'il y a un génocide à Gaza. Il fait 60 pages, je vous invite à le lire. Je ne dis pas que c'est une lecture agréable, mais je pense qu'aussi sur les conditions de détention, par exemple, des Palestiniens et Palestiniennes dans les prisons israéliennes, je pense que ça donne énormément de détails qui sont très durs à lire, d'ailleurs. Voilà, je voulais juste le dire parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Lisez, et c'est aussi une arme pour convaincre d'autres gens. Merci.
Voilà, et donc pour clôturer, merci à tous les trois d'être venus, d'avoir discuté avec nous. Merci à tout le public qui est là, et merci aussi à tout le public qui a suivi en ligne. Je voulais juste vous dire que le livre de Martin est en vente en bas, donc n'hésitez pas, comme ça vous pourrez poursuivre votre lecture et vous pourrez en débattre avec lui au bar. Et alors je voulais quand même vous dire aussi un petit mot sur certaines des activités que l'UPJB organise. Donc il y a toute l'année des rencontres, des débats, des activités culturelles, vous êtes évidemment les bienvenus, mais je voudrais mettre l'accent sur une exposition rétrospective qui va avoir lieu les week-ends du 11 et 12 octobre et 18 et 19 octobre, parce que l'UPJB cette année célèbre ses 80 ans et on a décidé de faire une exposition qui met à l'honneur tous les artistes de la maison. Donc je vous invite à passer voir au 61 rue de la Victoire les 11, 12 octobre et 18 et 19 octobre. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Merci.
Merci.